toute autre attribut de Dieu, a dans quelque mesure son correspondant dans l'esprit humain, la notion de sainteté, est essentiellement divine? Ne serait-ce pas la raison pour laquelle, malgré le fait que Dieu, dans le Nouveau Testament, ait si clairement désigné son peuple comme saint, ce terme a pourtant si peu pénétré dans le langage et dans la vie de tous les jours de l'Église chrétienne? Saint en Christ, note C, la sainteté de Dieu, la sainteté de Dieu. Il n'y a pas un terme aussi exclusivement scripturaire, aussi distinctement divin que le mot saint. En conséquence de cette origine divine qui est la sienne, ce terme a un sens inépuisable. Il n'y a pas un attribut de Dieu que les théologiens aient trouvé aussi difficile à définir ou sur lequel ils diffèrent davantage d'opinion. Un bref examen des différents points de vue exprimés pourront nous faire comprendre combien peu l'idée de la sainteté divine peut être comprise et épuisée par une définition humaine, et comment c'est seulement dans la vie de communion et d'adoration que la sainteté, qui surpasse toute intelligence, peut être saisie comme une réalité. 1. Le point de vue le plus rudimentaire et où l'élément moral semble passer à l'arrière-plan est celui où la notion de sainteté est associée à celle d'un Dieu séparé de sa création et élevé infiniment au-dessus de celle-ci. La sainteté ainsi conçue a été définie comme la gloire incomparable de Dieu, sa majesté infinie. Son titre à recevoir l'adoration de toutes ses créatures. Quoique toutes ces pensées soient étroitement unies avec la sainteté de Dieu, elles ne nous font saisir, malgré tout, que les effets de cette sainteté, et non celle-ci dans sa véritable essence. 2. Un autre point de vue nous amène à envisager la sainteté comme l'expression d'une relation entre Dieu et nous. Nous sommes appelés saints comme étant la propriété divine, mise à part pour son service, donc Dieu qui lui-même nous réclame pour être à lui et saint. Notre sainteté sert ici de point de départ pour nous amener à comprendre la sainteté de Dieu. Dieu est saint dans son essence, saint est son alliance avec son peuple. Il est non seulement le propriétaire, mais aussi le bien suprême des siens, leur possession est la seule loi qui les gouverne dies tel il a déjà été fait mention de ce point de vue dans le présent volume voire cinquième jour, note. 3. Abordons maintenant les vues de ceux qui envisagent la sainteté en tant qu'attribut moral. La conception la plus répandue est celle qui s'arrête à l'idée de pureté, de libération à l'égard du péché. La sainteté est un terme général pour désigner l'excellence morale de Dieu. Nul n'est saint que Dieu seul, nul autre que Dieu n'est parfaitement pur, rien ne saurait limiter la perfection morale de son être. Hodge. L'idée de sainteté implique ici celle de pureté infinie, de haine et d'horreur du péché, le point de vue négatif est surtout mis en évidence. On comprend la place importante qu'a pris cette conception par le fait que, dans notre état de péché, la première impression que puisse faire sur nous la sainteté de Dieu est une impression de crainte. Mais elle ne nous dit pas en quoi réellement cette excellence morale ou cette perfection de Dieu consiste. 4. C'est un progrès sur le précédent point de vue que d'essayer de définir ce qu'est cette perfection divine. Une chose est parfaite lorsqu'elle est, en tout point, ce qu'elle doit être. Il est facile de définir ainsi la perfection, mais moins facile de définir ce qu'est la perfection de tel ou tel objet, ceci demande la connaissance de la nature de cet objet. Aussi nous devons nous contenter de termes très généraux, qui définissent la sainteté de Dieu, comme le bien essentiel et absolu. La sainteté en Dieu, c'est l'affirmation libre, réfléchie, calme, immuable, de lui-même qui est le bien, ou du bien qui est lui-même. Godet, commentaire de Jean 17, L1. 5. Très rapproché du précédent, est le point de vue qui envisage la sainteté, non pas seulement comme un attribut divin, mais comme l'ensemble de ceux que nous sommes habitués à envisager et à nous représenter isolément comme les attributs de Dieu. C'est ainsi que Bagel envisageait la sainteté, comme la nature divine elle-même dans laquelle tous les attributs sont contenus. Dans le même ordre d'idées, on voit dans la sainteté la divine beauté, le produit parfait et harmonieux de tous les attributs divins. La sainteté divine est la beauté dans sa plus grande perfection et la mesure de toute autre beauté. La sainteté divine est cette parfaite et immortelle beauté qu'aucune langue ne peut traduire, qu'aucun il ne peut contempler. La sainteté pourrait être appelée l'attribut transcendantal de Dieu qui se communique à tous les autres et jette sur chacun l'éclat de sa propre splendeur. C'est l'attribut divin par excellence. Oh. Petit catéchisme de Witt. Tel était l'aspect de la sainteté divine sur lequel Jonathan Edwards arrêtait sa pensée avec délice. L'amour mutuel du Père et du Fils, dit-il, forme la troisième personne, le Saint-Esprit, ou la sainteté de Dieu, qui est sa beauté infinie. Par la communication de la sainteté de Dieu, la créature appart à l'excellence morale de Dieu, à la beauté de la nature divine, à sa perfection. La sainteté comprend tout ce qui constitue la vraie excellence morale des êtres intelligents. Ainsi, la sainteté de Dieu n'est autre que l'excellence morale de la nature divine, comprenant toutes ses perfections, sa justice, sa fidélité, sa bonté. Il y a deux sortes d'attributs en Dieu, en rapport avec notre manière de concevoir ses perfections. Ses attributs moraux, qui tous se ramènent à sa sainteté, et ses attributs naturels, force, connaissance, etc., qui constituent sa grandeur. Les personnes saintes, dans l'exercice de leur sainte affection, aiment Dieu, tout d'abord à cause de la beauté de sa sainteté. La sainteté d'une créature intelligente est ce qui met le sceau d'une incomparable beauté sur toutes ses perfections naturelles. Ainsi en est-il en Dieu, la sainteté est d'une manière particulière la beauté de l'être divin. Aussi l'Écriture parle-t-elle à diverses reprises de la beauté de la sainteté? C'est elle qui rend tous les autres attributs divins glorieux et aimables. 6. En parlant de la sainteté de Dieu, comme de l'excellence absolue de sa nature, certains appuient avec une force très spéciale sur le point de vue moral. Le bien en Dieu ne doit pas être le simple produit de sa propre nature, il doit être l'effet d'une libre volonté. Ce qui est naturellement bon n'est pas la vraie réalisation du bien. L'exercice d'une libre volonté doit aussi trouver sa place en Dieu pour qu'il soit véritablement l'auteur du bien, car seule la volonté, qui consciemment se détermine elle-même, est capable de faire le bien comme tel. Dieu est la puissance de sainteté, qui ne peut ni ne veut se renier elle-même. Il est le bien dans l'expression de sa nécessité la plus sainte, c'est ainsi qu'il est le saint. Dorné. 7. On a fait remarquer que, dans les points de vue qui précèdent, on n'a pas suffisamment tenu compte du fait que c'est spécialement, comme saint, que Dieu est appelé le Rédempteur, et qu'il accomplit l'œuvre de son amour, en vue d'élever ses créatures à la sainteté. On a été amené, par là, à cette conception, que la sainteté et l'amour sont, sinon identiques, du moins en étroite corrélation. Dieu est saint, digne de louange au-delà de toute expression, à cause de sa grâce, et plein d'une infinie tendresse à l'égard de sa créature, dans laquelle il s'est plu à manifester la gloire de son amour. Dieu est saint en ceci que l'amour, qui est en lui triomphe de sa juste colossiencère selon Osée 11,9 et ses jugements, ne s'exerce qu'après que toute possibilité de faire miséricorde s'est montrée inefficace. Cette sainteté se dévoile dans le nom que Dieu porte dans le Nouveau Testament, nom qui parle à la fois de sa suprême grandeur et de son amour tendre et condescendant, le nom de Père. Stier, commentaire sur Jean 17,1. 8. Ce dernier point de vue, qui renferme une précieuse vérité, se rencontre avec celui-ci, où sont mis en lumière les deux vrais aspects de la sainteté de Dieu. On peut le définir comme étant l'harmonie établie entre l'élément de conservation et l'élément de communication qui sont en Dieu. En tant que Dieu saint, Dieu est le péché et cherche à le détruire. En tant que Dieu saint, il communique sa sainteté au pécheur et l'élève ainsi à la hauteur de son amour. La sainteté est l'essence de la gloire divine, dont l'amour et la justice sont les deux aspects. La sainteté est l'élément de conservation en Dieu, par lequel il se soustrait à l'influence du monde extérieur et demeure conséquent, avec lui-même et fidèle à sa propre essence, par lequel aussi il se crée librement un organisme divin, qui ne vit que pour lui et qui est son Église. L'ange. La sainteté de Dieu est l'élément de conservation en Dieu, en vertu duquel il demeure fidèle à ses propres perfections, sans jamais sacrifier ce qui est divin, ni admettre ce qui n'est pas divin. Mais ceci n'est encore qu'un aspect. La sainteté de Dieu ne serait pas sainteté, mais simple exclusivisme, si elle ne l'amenait à entrer dans de multiples relations avec ses créatures, et ainsi à se révéler et à se communiquer à elles. Saint en Christ. Note D. Notre sainteté n'est donc pas une simple imitation de celle de Jésus, que nous réaliserions par nos propres résolutions, c'est la sienne elle-même, sa sainteté à lui, celle qu'il a réalisée ici-bas à force de lutte et de sacrifice et que du sein de sa gloire, il nous communique. C'est la vie humaine telle qu'il l'a faite en sa personne, exempte de péché et agréable à Dieu, qu'il reproduit en nous. Prototype de cette vie nouvelle, il est en même temps la source d'où elle descend dans l'âme du croyant. Il fait resplendir dans le cœur de celui qui le contemple avec foi sa propre image et l'y fait rayonner avec une telle puissance qu'elle prend vie en lui, qu'elle y devient l'homme nouveau, et que le fidèle est ainsi métamorphosé de gloire en gloire, comme par le Seigneur qui est esprit. 2 Corinthiens 3, 18. Jésus avait indiqué lui-même cette relation, qui devait exister un jour entre sa sainteté et la nôtre, dans cette parole, souvent jugée obscure, mais qui, après tout ce qui précède me paraît bien clair, « Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés en vérité », Jean 17, 19. En d'autres termes, la sainteté que je réalise dans ma vie, deviendra là leur par la communication, que je leur en ferai, et alors ils seront véritablement saints comme je suis saint. Jésus a exprimé cette même pensée dans ses mystérieuses images, boire son sang, manger sa chair, Jean 6 qui se rapporte évidemment, d'après l'explication, qu'il en donne lui-même verset 6, à l'opération par laquelle son esprit, approprie aux croyants sa chair, c'est-à-dire sa vie consacrée à Dieu et son sang, c'est-à-dire sa mort pour le péché, avec la mort au péché, qui y est impliquée. Notre sainteté n'est pas proprement nous, changeant et devenant meilleurs, car après 50 ans de travail fidèle, il nous arrive de nous retrouver tout à coup, dès que notre propre nature reprend le dessus, aussi mauvais qu'un demi-siècle auparavant, c'est bien plutôt lui grandissant en nous, de manière à remplir notre cure, et à bannir graduellement notre moi naturel, notre vieil homme, qui, lui, ne s'améliore pas, et n'a autre chose à faire qu'à périr. Comment s'opère dans la pratique cette espèce d'incarnation, par laquelle Christ devient lui-même notre nouveau moi? Par un procédé libre et moral, que Jésus a décrit dans une parole, qui nous étonne parce qu'elle met sa sanctification, presque sur le même pied que la nôtre, comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange, lui aussi, vivra par moi. Jean 6, 57. Jésus se nourrissait du Père qui l'avait envoyé et vivait par lui. Cela signifie sans doute qu'à chaque fois qu'il devait agir ou parler, il commençait par s'effacer lui-même, puis il laissait le Père vouloir, penser, agir, être tout en lui. Pareillement, lorsque nous sommes appelés à faire un acte, ou à prononcer une parole, nous devons commencer par nous annuler nous-mêmes en face de Jésus, et après avoir supprimé en nous, par un acte énergique, tout désir propre, laisser Jésus déployer sa volonté, sa sagesse, sa force. C'est ainsi que nous vivons par lui, comme il vivait par le Père, que nous le mangeons, c'est l'image dont il se sert comme il se nourrissait du Père. Le procédé de Jésus et le nôtre sont identiques. Seulement celui de Jésus se rapportait directement à Dieu, parce qu'il était en communion immédiate avec lui, tandis que le nôtre s'adresse à Jésus, parce que c'est avec lui que le croyant, communique immédiatement et par lui seulement que nous trouvons et possédons le Père qui est vivant. Là est le secret généralement si peu compris de la sanctification chrétienne. Mais nul ne saurait pratiquer cet art suprême, sans prendre dès l'abord la position glorieuse, qui nous est faite en Jésus-Christ, telle que l'enseigne saint Paul. Quand cet apôtre veut nous apprendre comment on parvient à mourir au péché et à vivre à Dieu, voici comment il s'exprime, « Faites votre compte que vous êtes mort au péché et vivant à Dieu, en Jésus-Christ, notre Seigneur ?» Ce langage n'est guère conforme à celui de la raison. La sagesse humaine dit, « Dégage-toi peu à peu des liens du péché, apprends graduellement à aimer Dieu et à vivre pour lui. » Mais de cette manière nous ne rompons jamais radicalement avec le péché et nous ne nous donnons jamais complètement à Dieu. Nous demeurons dans l'atmosphère terne et trouble de notre propre nature, et nous ne parvenons point à la pleine clarté de la sainteté divine. La foi au contraire, nous élevant quelque sorte d'un bond à la position royale, qu'occupe maintenant Jésus-Christ et qui en lui est déjà la nôtre. De là nous voyons le péché sous nos pieds, là nous savourons la vie de Dieu, comme notre véritable essence en Jésus-Christ. La raison dit « deviens saint pour l'être ». La foi dit « tu l'es, deviens-le donc ». Tu l'es en Christ, deviens-le en ta personne. Ou, comme dit saint Paul, vous êtes morts, mortifiez donc vos membres terrestres. C'est là ce qu'il y a de plus paradoxal dans le pur enseignement évangélique. Celui qui méconnaît ce fait intime ou le repousse ne franchira jamais le seuil de la sanctification chrétienne. On ne rompt pas peu à peu avec le péché, on consomme d'un coup et là point rupture complète, en s'appropriant l'expiation que Christ a consommée sur la croix. On ne gravit pas à un les degrés du trône, on s'y est lancé s'y assied en Christ, par l'acte de foi qui nous incorpore à lui. Puis du haut de cette position, sainte par essence, on domine victorieusement le moi, le monde, Satan, toutes les puissances du mal. C'est dans ce milieu de sainteté absolue, où l'on se trouve transporté, que l'on revêt l'image à la fois divine et humaine du Fils de Dieu. Saint en Christ, note, je désire une fois de plus renvoyer tous ceux qui étudient le sujet de la sainteté à l'ouvrage de Marshall sur la sanctification et surtout au troisième et au quatrième chapitre de cet ouvrage. S'ils veulent comparer ce volume avec nos ouvrages modernes, par exemple, Le chemin de Dieu qui conduit à la sainteté, par l'éminent docteur H. Bonnard, ils ne peuvent faire autrement que d'être frappés par la place que donne Marshall à cette seule pensée que notre sainteté, une nature sainte, nous est donnée en Jésus et que la sanctification est l'œuvre de la foi qui accepte le fait d'une union personnelle de notre être avec Jésus et persévère. Tandis que d'autres ouvrages, au contraire, ne font que mentionner incidemment cette union de notre être avec Christ, appuyant surtout sur nos devoirs et sur les motifs qui nous poussent à les pratiquer, Marshall fait ressortir combien ces motifs sont incapables de nous communiquer la force dont nous avons besoin. C'est la puissance de la vie de Christ en nous, c'est Christ lui-même, lorsque par la foi nous sommes enracinés en lui, qui accomplit en nous toute œuvre vraiment agréable à Dieu. Saint en Christ, note F. Le double résultat de la rédemption, extrait d'un discours du pasteur Stockman, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dans l'œuvre de la rédemption de notre Sauveur Jésus-Christ, il y a deux aspects bien distincts. Vous ne saurez jamais le secret de demeurer en Christ, aussi longtemps que vous ne saurez pas discerner ces deux aspects. Le premier, c'est Jésus pour moi, le second, moi pour Christ. Béni soit notre Seigneur, il est venu pour les pécheurs, lui pour nous. Béni soit le Seigneur, il y a rédemption pour le coupable. Mais ce n'est pas là tout ce que signifie la rédemption. Par ce même Saint-Esprit, qui est le guide qui nous conduit à la pleine possession de tout ce que Christ nous a acquis et par sa vie et par sa mort, il faut que vous arriviez à saisir la seconde partie de la rédemption. Il s'est donné lui-même, afin de nous racheter de toute iniquité, non pas que nous ayons la joie de nous complaire dans notre état de pureté ou de sainteté, ou autre chose semblable, mais afin qu'il puisse nous posséder entièrement pour lui-même afin de se faire un peuple qui lui appartienne, un peuple qui lui appartienne à lui seul, qui soit vraiment sa possession. Et maintenant, qu'est-ce que la rédemption? L'affranchissement du moi, même du moi spirituel. Nous ne sommes pas faits pour être le centre de notre propre vie, le centre de notre joie, de notre marche en avant, ayant dans nos pauvres et faibles mains le fil de notre vie spirituelle. Il n'y a de vraie vie spirituelle qu'en Christ, et il doit prendre soin de celle-ci du commencement à la fin. Levez les yeux, chers frères, vous qui, si longtemps, vous êtes traînés à terre péniblement. Nous sommes faits pour la gloire de Dieu, pour être la propriété de Jésus-Christ. Le Seigneur notre Dieu, en donnant son Fils, l'agneau de Dieu, son agneau à lui, a trouvé le moyen pour amener de pauvres créatures, si entièrement plongées dans l'égoïsme que, même dans la ligne de la vie chrétienne, elles étaient capables de se rechercher elles-mêmes à devenir, dans le sens le plus pratique, sa propre possession, à être possédées par Jésus. C'est là, et là seulement, le sens de la rédemption. C'est là que votre âme trouvera sa pleine satisfaction, lorsqu'elle ne pourra plus se satisfaire d'une expérience personnelle quelle qu'elle soit, mais laissant là ses expériences, lorsqu'elle pourra dire « Je suis libre, libre comme les enfants d'Israël à la sortie d'Égypte, libre pour le service de mon Dieu. Laisse-les mon peuple, afin qu'ils me servent. » Vous êtes libre, libre par le sang de Christ, libre par la puissance du Saint-Esprit. Aucune autre puissance n'est capable de vous retenir en arrière. Le Seigneur a étendu son bras sur toutes les puissances qui nous avaient gardés dans l'esclavage en Égypte, et il en a triomphé. Vous êtes libre comme l'oiseau des cieux, pour vivre désormais en Jésus, libre dans votre vie de tous les jours, libre jusque dans les profondeurs les plus mystérieuses de votre être, libre pour Jésus, la propriété de Jésus, un peuple qui lui appartient. Laisse aller mon peuple, dit Dieu. J'ai donné mon sang, dit Jésus, et ni la chair, ni le péché, ni la puissance subtile de votre propre moi ne peut plaider contre le sang de Jésus. Il s'est fait à lui-même, non pas à nous, un peuple qui lui appartienne. Vous demandez le secret de demeurer en Jésus. N'avez-vous pas lu dans le 15e chapitre de Jean que demeurer en Jésus et porter du fruit sont deux choses inséparables? Vous ne pouvez demeurer en Jésus pour sa joie et en même temps pour votre propre satisfaction. Le secret pour demeurer est de prendre votre position de racheté aussi fermement dans la deuxième partie de la rédemption que dans la première. Je vis maintenant pour Jésus et je dis au Seigneur, « Seigneur, qu'y a-t-il à faire pour toi maintenant ? Je suis pour toi ? Je vis pour Jésus. »